L'agression remonte au 15 mai dernier. Ce jour-là, une manifestation non autorisée contre la réforme des retraites dégénère à Amiens, en Picardie. Le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, est frappé devant la chocolaterie familiale. Deux de ses agresseurs ont été condamnés aujourd'hui en fin d'après-midi à de la prison ferme. Alexandra González, vous rentrez d'Amiens, vous étiez présent à l'audience. Qui est condamné à quoi ?
Alors, ils étaient trois aujourd'hui hein, devant cette salle qui était comble. Hein. Pour vous dire, il y avait donc on était une cinquantaine de personnes assises et une quarantaine sont restées debout. Le président de la Chambre a toléré qu'ils restent là dans cette salle et un public vraiment très bigarré parce que ça allait des clientes de la chocolaterie qui m'expliquaient qu'elles étaient venues en soutien à la famille Trogneux avec leurs robes fleurées, leurs petites sandalettes et puis à côté les amis des prévenus qui eux avaient une silhouette, on va dire une allure un peu plus marginale en survêtement, en basket dans la salle d'audience. Les trois prévenus qui comparaissaient aujourd'hui étaient âgés de 20, 22 et 34 ans. Celui de 34 ans était le principal suspect, celui qui était vraiment accusé par plusieurs témoins d'avoir mis des coups. Il est condamné à 30 mois de prison avec 30 mois de prison, dont 15 avec sursis, avec maintien en détention, c'est-à-dire qu'il est ressorti de l'audience détenu comme il était arrivé, il repart en prison. Le deuxième, qui était le plus jeune, âgé de 20 ans, lui, a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Lui aussi, maintien en détention, donc il est reparti lui aussi détenu. Et puis le troisième, âgé de 22 ans, qui se présentait comme un journaliste indépendant, mais non professionnel, qui filme en gros l'actualité sur TikTok, explique-t-il, et qui était en larmes à certains moments de l'audience aujourd'hui, lui a été relaxé au bénéfice du doute.
Le procureur a eu des mots particulièrement sévères et dit « j'ai vu des lâches aujourd'hui ».
J'ai vu des lâches, un mobile odieux, a dit le procureur, qui s'inquiétait même de cette violence gratuite en disant « j'ai peur de retrouver ces personnes dans quelques années devant une cour d'assises pour des faits encore plus graves pour un mort », a-t-il dit, parce que ce que j'ai vu, a dit le procureur, ce que j'ai vu aujourd'hui à l'audience, c'est des gens qui ne semblent pas prendre conscience, ne semblent pas réaliser, je n'ai vu aucune culpabilité, aucun remords, aucun regret, a dit le procureur, aucun mot porteur d'espoir pour l'avenir.
Alors il y a une chose qui va sans doute faire réagir autour de cette table, mais le procureur a dit aujourd'hui qu'il n'y avait sans doute pas de connotation politique. En tout cas, lui considère que les accusés, les condamnés ce soir, ne connaissaient pas l'identité de la personne qu'ils agressaient.
Écoutez, c'est le sentiment que j'ai eu aussi en assistant à cette audience et en écoutant ces trois personnes expliquer à la barre ce qu'elles faisaient ce soir-là, c'est qu'ils ne connaissaient pas l'identité de Jean-Baptiste Trogneux, ni son visage, peut-être son nom, mais en tout cas, ils ne savaient pas que ce soir-là, ils avaient face à eux cet homme-là. Ils expliquent que ce soir-là, ils sont en train de déambuler pour ce qu'ils appellent une manifestation sauvage. Alors, quand le président leur demande « mais c'est quoi une manifestation sauvage par rapport à une manifestation tout court ?» Pas de réponse. Un gros blanc de celui qui était interrogé à ce moment-là. Donc bon, en gros, ils erraient après une casserolade dans Amiens. Ils passent devant cette chocolaterie et puis là, ils se mettent à déplacer des poubelles, des bennes à ordures devant l'entrée de la chocolaterie. Alors le président leur demande, demande à l'un des trois pourquoi cette chocolaterie. Est-ce que c'est lié au nom Trogneux qui est écrit en grand, qui on le rappelle, la famille Trogneux et la famille de Brigitte Macron. Et il lui répond alors. Avec ironie ou non, ça, difficile de l'apprécier, il lui répond, c'est parce que les chocolats sont trop chers.
Bon.
C'est vrai que ce qui ressortait aujourd'hui, c'était vraiment ce sentiment de différence sociale entre ces hommes prévenus au parcours de vie très accidenté, très chaotique, avec un parcours judiciaire déjà assez lourd pour leur jeune âge. L'un d'entre eux est considéré comme handicapé en raison de son illettrisme, mais on l'a vu à l'audience, il ne comprenait pas bien les questions, il avait du mal à s'exprimer. Un autre à qui on pose la question « Est-ce que vous considérez que vous êtes violent ?» Il répond « Quand je peux, oui ». Et là, il y a eu un silence, on a tous pensé à son avocat en se disant « bon, pas évident de défendre des personnes comme ça ». Donc voilà, c'était quand même une audience assez particulière et pas du tout semblant être politisée.
Géraldine, justement, qu'est-ce que ça change ? Pas de connotation politique, qu'est-ce que ça change ?
Ça, c'est eux qui le disent, j'en sais rien, moi.
Non, le procureur pas, aussi, visiblement.
Il dit que on ne pourra pas savoir. C'est ce qu'ils disent et on ne peut pas prouver le contraire. Voilà ce qu'il dit, le procureur. Il ne dit pas, il n'y en avait pas. C'est qu'effectivement, on ne peut pas le prouver. Maintenant, effectivement, quelle est la raison pourquoi vous avez mis ces poubelles ? Ah, les chocolats étaient trop chers. C'est assez bravage de la même personne qui a dit, mais j'ai agressé personne. Moi, je me suis défendue. C'est lui qui m'a attaqué. Donc, si vous voulez, Voilà, bon, chacun aura en tête l'échelle des peines. Moi, je constate quand même que le tribunal a été assez clément, étant donné que le procureur avait requis le double des peines qui ont été prononcées. Donc,
Il y a quand même de la prison ferme. Par ailleurs, évidemment, comme vous l'avez décrit, on voit bien dans le profil de ces individus qu'il y a une forme de bêtise, de violence un peu gratuite, un peu bête, un peu opportuniste, comme on le voit parfois en marge des manifestations. Il n'en demeure pas moins que, malgré tout, on sait... là, s'il n'y avait pas de visée politique, que cette chocolaterie et les autres établissements trogneux dans la région sont régulièrement la cible, malgré tout, de malveillance. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité qui est que ça cristallise aussi, pour des raisons politiques, pas en l'espèce, mais dans d'autres occasions, des insultes, des vendeuses qui se font agresser, des gens qui sont malveillants, parce que, effectivement, le nom trogneux résonne pour eux comme celui de l'épouse d'Emmanuel Macron. Là, ce n'est pas le cas. C'est le procès d'une bêtise ordinaire. Mais ça ne doit pas occulter le fait que c'est aussi une réalité tout de même.
Samuel.
Mais ce qui pose question aussi, c'est que ce fait divers semble s'inscrire dans une tendance plus large depuis quelques années, où les Français ont l'air de plus en plus de régler leurs différends par la violence. Il y a beaucoup de statistiques alarmantes de ce point de vue-là. Il y a 120 attaques au couteau par jour. Les attaques sur les élus et les injures sur les élus ont augmenté de 30% en un an. Le Figaro rapportait aujourd'hui que les violences sur les pharmaciens augmentent chaque année de 10%. Donc il y a un vrai problème de violence verbale et physique envers des élus, mais même envers des citoyens anonymes dans notre société. Et ce fait divers dont on n'aurait peut-être jamais entendu parler sans le lien de parenté entre ce chocolatier et Brigitte Macron est peut-être révélateur d'un problème plus grave sur lequel il faudrait peut-être passer plus de temps.
Nora.
Alors, effectivement, il y a quelque chose à interroger sur l'incapacité aujourd'hui à trouver une réponse, en fait, à une forme de violence. Pour autant, là où je me pose une question, c'est est-ce que nous aussi, collectivement, on a traversé dans l'époque d'autres épisodes violents? Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a une incapacité juste à répondre? La réponse judiciaire est une réponse, mais cela ne suffira pas, en fait, à recréer ce lien qui conduira à considérer l'individu que vous avez en face de vous comme étant quelqu'un sur lequel, en fait, on ne se jette pas parce qu'on aurait envie, en fait, de passer ses nerfs. Ça dit quelque chose d'un moment qu'on est en train de traverser, et en l'état, c'est une réponse symbolique, une réponse pénale, mais une réponse aussi symbolique, parce qu'on se souvient de l'émoi suscité par ce moment, et on en a discuté ici même sur ce plateau. Quoi qu'il en soit, comment on répond, en fait, socialement à ça? Vous le disiez à l'instant, on est face à des gens qui ont, des trajectoires de vie accidentées, qui sont dans un rapport à la violence, parce que sensiblement il y a aussi une problématique de comment on exprime une colère autrement, en fait, que par ce biais-là. C'est quelque chose que je pense qu'il faut être en capacité d'entendre, non pas pour l'excuser clairement, non pas pour le justifier, mais pour pouvoir y apporter une réponse, parce que la justice ne pourra rien.
Et on va continuer à en parler dans un instant. Vous pourrez encore réagir, Samuel, puisque l'avocat d'un des accusés, d'un des condamnés, ce soir sera avec nous en direct. On continue à en parler. Reste avec nous sur BFM TV. Bonsoir, Maître David Dalmaz.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de Florian. Votre client a donc été condamné cet après-midi pour avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron, mi-mai à Amiens, condamné à 24 mois de prison, dont 12 mois ferme. Il reste donc ce soir en prison. Comment est-ce qu'il a réagi à l'énoncé du jugement?
Il n'a pas bien compris, mais à même titre qu'il ne comprenait pas la détention provisoire, il est un peu perdu. Il dit bon, j'ai pris 12 mois pour une claque. C'est un petit peu comme ça qu'il le voit. Après, effectivement, par rapport aux réquisitions, il est en récidive. Mais enfin, tout ça, c'est des choses assez compliquées pour lui de comprendre.
Pourquoi est-ce que ce sont des choses compliquées à comprendre pour lui?
Si vous voulez, c'est quelqu'un qui a un parcours de vie, une enfance qui a été violée dans tous les sens du terme et qui a été volée, qui est complètement effractée, il a une certaine violence en lui, il l'a exprimée là dans le cadre de cette manifestation. Mais enfin, ça aurait été une manifestation pour la défense des petits trains électriques, ça aurait été exactement pareil. Donc il a du mal, effectivement, dans sa tête, il a donné deux coups de pied dans une porte qui était déjà cassée, et il a mis une claque pour défendre un copain, parce que on est revenu dessus, la défense l'a bien dit, l'étincelle, c'est monsieur Trogneux qui descend, à juste titre, pour défendre sa boutique, d'accord, mais c'est l'étincelle. Et lui, ce qu'il voit, c'est pas Monsieur Trogneux, ce qu'il voit, c'est quelqu'un qui met une claque à son copain.
Oui, alors, après, c'est étrange de parler d'étincelle dans ces cas-là, précisément, parce que si Monsieur Trogneux ne fait que se défendre...
Il a fait que se défendre. Il est intervenu, effectivement, dans d'autres situations. Le procureur aurait demandé pourquoi vous n'avez pas appelé la police. Ça, on l'entend aussi, dans la justice ordinaire. Là, c'était des faits.
Pour vous, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce qui s'est passé aujourd'hui, hors du commun, dans le sens où il y aurait une justice particulière parce que c'était le petit-neveu de Brigitte Macron, c'est ce que vous dites ?
Oui, quand même. Déjà dans le traitement. Après, effectivement, le président a suramené à plus juste raison les réquisitions du procureur. Mais quand on a entendu le procureur de réclamer tant de ferme pour ce type de fait, alors que la jurisprudence constante, on va dire, du tribunal correctionnel d'Amiens, on a du contrôle judiciaire. On n'a pas de la détention provisoire et du ferme. Alors après, effectivement, il y a une récidive, etc. Alors, on a eu des
récidives. Pardon. J'ai, vous me corrigez si je me trompe. J'ai lu que votre client avait déjà été condamné pour agression sexuelle et pour viol, notamment. C'est ça ?
Tout à fait. Alors pour viol, pourquoi ? Je l'ai expliqué dans ma plaidoirie. C'est un enfant qui a été violé jusqu'à l'âge de ses 6 ans avec sa sœur par son père. Il a été placé à l'ASE. Il est retourné chez lui. Le père était plus là, était condamné. Une mère alcoolique qui le tapait, il est retourné à l'ASE. Il allait de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Et dans l'un de ces foyers, famille d'accueil, effectivement, il y a eu ce viol. Mais quand je lui ai demandé pourquoi il a violé, quand je suis allé le voir en détention, il me répond je sais pas. Et c'est de moi-même. Je lui dis, mais vous n'auriez pas été violé? Mon père m'a violé jusqu'à mes 6 ans tous les jours avec ma sœur. Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué pour eux de conceptualiser un petit peu ce qui se passe.
Depuis le début, j'entends ce que vous dites, depuis le début de cette affaire, il y a une interrogation, on en parlait juste avant la pause, sur la connotation politique de l'agression, des gestes qui ont été commis. Le procureur dit aujourd'hui, ces personnes qui sont ce soir condamnées, donc votre client notamment, ne connaissaient pas l'identité de Jean-Baptiste Trogneux.
Il le connaissait pas. Trogneux est assimilé. On va pas se mentir. Il y a un mal-être général, j'irais dire, dans bon nombre de la population. Il y a quand même des. Il y a eu les gilets jaunes. Il y a eu la retraite. Même si pour eux c'est pas très clair. Ils vivent cette. Ils ont cette sensation d'injustice parce qu'ils sont retrouvés dans des vies complexes, très 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 compliquées, douloureuses, effractées. Et donc ils assimilaient Trogneux, ils savent que Trogneux c'est proche Macron, mais quand on voit la vidéo, c'est pour ça qu'on a demandé à voir la vidéo, c'était assez intéressant, on voit bien ils ne s'en servent pas comme bélier, ils tirent les poubelles pour les placer devant la porte en disant comme ça demain la porte d'accès au magasin elle va être inaccessible, on en est là alors qu'il est 9h30 du soir, que les poubelles sont ramassées à 6h du matin, enfin bon ouais. Donc alors ils se retrouvent avec du ferme et s'en semble bien comprendre parce que effectivement ils comparent pas ils connaissent pas la jurisprudence on va dire du tribunal correctionnel mais ils se disent j'ai mis une claque et je fais 12 mois ferme c'est déjà beaucoup mieux.
Reste avec nous Samuel.
Non mais juste un commentaire, tout à l'heure j'entendais qu'au procès il avait dit quand je peux être violent je le suis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en France, sur une population de 66 millions d'habitants, qui ont des pulsions violentes et qui, quand ils peuvent les assouvir vertueusement, le font et sont ravis de le faire. C'est d'ailleurs pour ça que les totalitarismes marchent aussi bien. Les gens veulent des raisons vertueuses d'assouvir leur violence. Et ça,
c'est quoi une raison ou une manière vertueuse d'assouvir sa violence ?
Une manière vertueuse, qu'ils croient subjectivement être vertueuse, évidemment.
Ah oui.
Et c'est pour ça, je pense, que la classe politique a un lourd devoir de ne pas légitimer, de ne pas donner de bonnes raisons, entre guillemets bonnes raisons, parce qu'il n'y a jamais de bonnes raisons à la violence, aux manifestants d'assouvir leur pulsion violente. Et quand on entend, excusez-moi, en face sur le plateau, ça, c'est pas content, mais on entend le discours de la NUPES toute la journée à parler de violence sociale, à dire que Macron, néolibéral, violence sociale contre les pauvres, la réforme des retraites, injuste, scandaleux, il faut aller plus loin, dans la rue va donner, la légitimité de la rue va parler face à la légitimité démocratique, etc. Ça permet aux gens de trouver des raisons qu'eux considèrent vertueuses de se livrer à des comportements violents comme ça.
Alors, puisque en face, ça réagit comment en face?
Non, mais comme d'habitude, je vais encore répéter que je ne suis pas une porte-parole de la pub.
Quand je dis en face, je regardais les deux.
Mais en fait, à un moment,
Alexandra aussi, elle pouvait.
En fait, à un moment, l'idée, c'est juste de dire, et c'était mon propos tout à l'heure, que la réponse pénale ne fait pas tout. Et en fait, à un moment, l'état de cette société et ce qui vient d'être décrit par l'avocat à l'instant, comment on va pouvoir répondre à ça de telle sorte que on ait des individus qui ne soient pas dans cette pulsion violente et qu'il faut aussi réparer. C'est-à-dire qu'il suffira pas d'envoyer ces personnes une année en prison pour en fait les réparer et éviter qu'à leur sortie, en fait, ils recommencent.
C'est une vision aussi encore très souvent. On a entendu l'avocat qui a une profession vraiment bien difficile, hein, qui nous explique en gros que il est descendu.
Il est encore avec nous, l'avocat.
Il est descendu, monsieur Trogneux. C'est comme si on disait ah bah oui, mais la fille, elle s'est fait violer, elle est sortie. Elle est sortie en jupe. Quand même, il a provoqué, il est descendu. Soyons sérieux, une minute. Évidemment, la condamnation ne vise pas uniquement les individus, c'est aussi un message qu'on envoie à la société.
Mais bien sûr.
Dans la société, on tape pas. Voilà, on tape pas.
Mais ça, là-dessus, on est tous d'accord.
Elle doit être à minima, la société.
On est d'accord là-dessus.
À minima, non violente. Et si on n'est pas capable de faire appliquer les règles de la non-violence, alors on a la sauvagerie. Ouais. Donc c'est ça aussi. On ne peut pas prendre en compte toutes les particularités.
Oui, mais à un moment, l'avocat nous explique bien qu'il n'a même pas, semble-t-il, saisi la raison de la peine.
Donc pour rebondir sur ce que vous disiez que la classe politique a une responsabilité. Moi, j'interviendrai juste pour dire ce que j'ai vu à l'audience aujourd'hui. La personne qui a dit ces mots de dire quand je peux être violente, je le suis, c'est une personne qui vit à la rue et qui... je pense, pour avoir parlé en tout cas avec ses camarades qui étaient là aujourd'hui à l'audience pour soutenir, ne suit pas ni de près ni de loin la classe politique actuelle, que ce soit la classe politique de gauche.
Ça a été pris en compte par le tribunal qui a été clément, encore une fois.
Le procureur avait requis
2 ans et demi,
il y a un retour en détention avec 30 mois de prison qui sont prononcés.
On sent qu'on a le sentiment que vous le regrettez.
Quand vous dites une peine de prison qui est clémente, moi je m'interroge, clémente par rapport aux réquisitions demandées, c'est ça que vous dites? Ah oui, mais les réquisitions sont juste l'avis d'un procureur à ce moment-là. À l'audience.
Mais moi, ce qui me gêne, je crois que c'est établi, ils l'ont tabassé,
si je peux en placer une. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est l'extrapolation politique et l'interprétation sociétale qu'on est en train de faire de ce sujet. Parce qu'on voit bien que là, visiblement, c'est un cas social. Je veux dire que cet homme-là a un parcours de vie, on l'a vu, il a été violé par son père jusqu'à l'âge de 6 ans. Je trouve que tirer des leçons générales sur l'état de la société, l'état de la politique, le message politique de ce qui reste pour moi un fait divers, et visiblement dont les motivations, même lui, est incapable de les conceptualiser, je trouve qu'on va un peu loin. Je ne crois pas qu'il y ait de leçons politiques ou de leçons sociétales à tirer du cas de cet individu.
Non, mais je voulais qu'on soumette au Dalmas.
Je pense qu'il n'y a pas plus, effectivement, je partage votre avis, je pense qu'il n'y a pas plus de leçons à en tirer d'ordre général.
Maître, je voulais quand même reciter ce que disait le procureur tout à l'heure à l'audience. Il dit, j'ai vu des lâches, en gros, personne n'assume dans cette affaire parmi ceux qui étaient accusés. Ce que je crains, c'est qu'on se retrouve dans quelques années devant une cour d'assises parce qu'on n'aura pas pu les empêcher de causer des faits plus graves. Voilà ce que disait le procureur et voilà aussi pourquoi il réclamait des peines aussi lourdes.
Oui, alors je vous entends plus bien. Oui, procureur a oublié la seconde partie. On a une responsabilité collective, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas la prison qui va les réparer, mais les centres d'hébergement et d'insertion, l'ASE, la MDPH, où vous avez des délais d'attente de 1 an pour avoir rendez-vous avec un psychiatre et d'un an et demi avec un psychologue. C'est là où il y a une défaillance de l'État. Là, il y a une violence institutionnelle. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est pas la prison qui va les réparer. Ça va que les renforcer dans une aigreur, dans le fait de se sentir incompris. C'est des personnes que nous devrions, hein, je dis bien nous, notre société devrait proposer des vraies solutions. Une MDPH qui fonctionne. Moi, j'ai plusieurs clients en maison d'arrêt. Ils voient le psychologue sur un coin de table un quart d'heure toutes les trois semaines. Ça, c'est pas là où on va réparer ces gueules cassées, je dirais.
Merci, maître. D'un mot, Alexandra. D'un mot.
Dernier mot. Comment va Jean-Baptiste Rogny aujourd'hui? Oui. Son avocat, il n'était pas à l'audience. Son avocat a dit qu'aujourd'hui, il n'attend qu'une seule chose, c'est la paix. Ce sont ses mots. Il a demandé à ce qu'il puisse ressortir en toute sérénité dans la rue sans qu'il ne soit agressé, menacé, insulté en raison de son nom. Il n'a demandé qu'un euro symbolique et aucun dommage et intérêt à ces personnes.
Merci beaucoup, Alexandra González. Merci également à Maître Dalmas d'avoir été avec nous en direct.